Bienvenue au podcast Génération YZ. Je suis votre animatrice Élodie Laflamme, une entrepreneure web passionnée de développement personnel et de spiritualité. Génération YZ a été créée en 2020 pour mettre l'humain en lumière. Ici, je te présente des personnes inspirantes que j'ai rencontrées sur mon chemin qui nous partagent leur histoire. Dans cette quatrième saison, nous aurons des conversations vulnérables qui nous apporteront du courage pour avancer et tu en apprendras plus sur mon quotidien, mes défis personnels et mes apprentissages. J'ai comme mission d'aider le plus de femmes possible à créer leur empire de rêve, les accompagner à prendre soin d'elles et les guider vers leur plein potentiel. N'oublie pas qu'il faut que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites pour avoir des résultats que tu n'as jamais eus. Let's be all in! Hello, hello! Bienvenue sur le podcast Génération YZ dans la saison 4. On se retrouve aujourd'hui, comme à tous les lundis, pour un épisode solo. J'espère que vous allez bien. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'oubliez pas de me taguer en stories, me dire que vous avez écouté l'épisode ou m'écrire en privé si vous voulez partager ou poursuivre la discussion qui aura démarré sur dans cet épisode, en fait. Vous savez, sur mon podcast, je réserve vraiment l'exclusivité, si on veut, aux confidences, à qu'est-ce qui se passe dans mon behind the scenes, dans ma vie plus personnelle. Donc, ce que je m'apprête à vous partager aujourd'hui, c'est des choses que j'ai jamais partagées sur les médias sociaux. J'en ai parlé un petit peu des fois quand j'ai été reçue sur des podcasts, ici et là, mais jamais rien, si on veut, d'officiel. Puis, aujourd'hui, je m'ouvre vraiment à vous, donc je sais que vous êtes une communauté sans jugement. On parle d'anxiété aujourd'hui, donc mes expériences avec l'anxiété, comment je vivais l'anxiété auparavant versus aujourd'hui. Si vous êtes une personne qui fait beaucoup d'anxiété, sachez que je vous envoie full d'amour. Puis comme j'ai dit, vous pouvez m'écrire en privé sur Instagram s'il y a quoi que ce soit. Donc, pour commencer, je vous dirais que j'ai toujours été une personne qui a fait un peu d'anxiété. À ce jour, j'ai 25 ans, j'ai jamais fait de crise de panique, j'ai jamais eu comme de gros blocages à m'empêcher de faire quelque chose à cause de l'anxiété, mais il y a quand même des choses qui ont changé, je vous dirais, depuis la pandémie. Donc, je vais commencer par vous raconter, quand j'étais plus jeune, au primaire, de ce que je me souviens vraiment, où j'ai commencé à faire de l'anxiété, c'est à l'âge de 7 ans. Parce que cette année-là, mes parents se sont séparés, et dans la même année, ma grand-mère est décédée du cancer du poumon, et dans la même année, mon grand-père est décédé du cancer du poumon. Donc malheureusement, mon père a perdu ses deux parents en 6 mois. Imaginez perdre vos deux parents la même année. C'est juste... C'était vraiment quelque chose. C'était vraiment triste. Puis en même temps, mon père se séparait. Ma mère se séparait. Donc, c'était une grosse année pour moi. Puis, durant cette année-là, c'est là que j'ai commencé à avoir des tics. 9% de mémoire des enfants ont des tics. Là, je ne veux pas vous dire n'importe quoi, je ne me souviens même pas de la source, mais si on va voir en ligne, c'est vraiment pas tant d'enfants qui ont des tics. Puis, les tics, sachez que c'est vraiment différent que des manies. Tu sais, des manies, c'est vraiment des habitudes que les gens vont prendre. Exemple, de s'assurer que le four est toujours fermé. Une personne pourrait regarder ça 20 fois avant de se coucher, s'assurer que son four est fermé, même si elle l'a déjà regardé une fois. Ça, c'est une manie. Que s'assurer toujours est toujours placé au même endroit, que c'est droit, justement, qu'il n'y a rien de croche dans la maison, par exemple, c'est des manies. Bref, on connaît plus les manies, je vous dirais, que les tics. Un tic, c'est physique, c'est souvent inconscient et difficilement contrôlable. Par exemple, quelqu'un qui cligne beaucoup des yeux sans être capable de s'arrêter, tu sais, sans le vouloir, c'est un tic. Il y en a qui font des bruits de bouche, il y en a qui... Tu sais, ça fait penser au... Comment on appelle ça? Je sais pas si c'est une maladie ou un symptôme, je voudrais pas me tromper ici non plus, mais... c'est ça, symptôme Gilles de la Tourette. Vous savez c'est quoi, tu sais, il y en a que c'est des sons, il y en a que c'est justement des tics, c'est ça un peu. J'ai jamais été diagnostiquée avec le syndrome, j'ai peur de mal dire, syndrome de Gilles de la Tourette. Puis j'en ai déjà parlé, by the way, de mes tics à ma médecin de famille, elle m'avait fait passer un test, je pense que c'était justement d'anxiété ou TDAH, qui était comme peut-être relié, puis finalement ça avait pas donné grand-chose. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a peu d'enfants, puis c'est vraiment à l'âge de 7 ans, cette année-là, que j'ai développé des tics, pas un, des, tout en même temps. Donc, premièrement, là, vous ne me voyez pas, mais je faisais un tic de cou. Je tournais ma tête genre 360 ou 180, je ne sais pas trop, vers l'avant. Je faisais des cercles avec ma tête à maintes répétitions. Là. Je peux faire ça 30 fois de suite. Puis, peu importe où, que je sois à la table en train de manger avec ma famille ou que je sois dans une salle de classe, là. Tu sais, des fois, mon pupitre était en avant, mais tout le monde derrière me voyait tourner ma tête, craquer mon cou. Tu sais, c'était pas chic. Puis, le nombre de fois que mon père riait de moi, m'imitait, tu sais, ça m'a vraiment affecté. C'était vraiment pas beau. Puis, tu sais, me mettant à la place de mes parents, c'est sûr que c'est stressant de voir ton enfant développer des tics parce que tu te dis, my God, tu sais, on veut pas que la personne se fasse intimider, juger, blablabla. Aussi, deuxième tic que j'ai développé, c'est mon nez. Donc, that's so weird, ok, ce que je m'apprête à vous dire. J'ai jamais vu ça nulle part, je sais pas pourquoi je fais ça. Je faisais ça, mais je craquais mon nez. Puis là, je connais pas super bien le corps humain, mais tu sais, on a comme un gros os dans le nez. Je craquais ça dans mon nez. That was so weird. Puis encore une fois, c'était incontrôlable. C'est pas moi, dans un sens, qui choisissais quand je voulais faire ce tic-là. Puis le dernier tic que j'ai développé, c'était avec mes poignets. Donc, je tournais mes poignets en essayant de les faire craquer les deux en même temps. Je tournais mes poignets. Donc, c'était quand même intense. Personne dans ma classe, j'avais pas d'amis non plus qui avaient des tics. Personne proche de moi. Mes parents pas de tics, whatever. Mais juste vous dire, en passant, qu'il y a énormément d'anxiété dans la famille du côté à mon père. Beaucoup, beaucoup de gens étaient sur les antidépresseurs. Il y a eu beaucoup de dépression aussi. Puis c'est ça, c'était, l'anxiété est là. Mon père est anxieux. Mon père est médicamenté aussi de mémoire. Je sais plus sur lequel, là, mais bref. Donc, c'est là que tout a commencé. Alors, mes parents m'ont amené chez la psychologue. J'ai vu une psychologue pour la première fois, justement, en quatrième année. C'est ça, je pense que j'avais 7-8 ans. Je me souviens encore c'est qui aujourd'hui. Puis, c'est vrai, j'ai oublié de dire, j'avais aussi beaucoup de difficultés à m'endormir le soir. Ça me prenait peut-être 2 heures, 2 heures et demie. Je regardais toujours mon cadran. Fait qu'elle m'avait donné des petits trucs. Puis pour vrai, depuis que j'ai vu cette psy, j'ai plus de la misère à dormir. Tu sais, aujourd'hui, à 25 ans, je m'endors super vite depuis toujours, là, même si l'anxiété est encore là, mais sous différentes façons. J'ai zéro difficulté avec mon sommeil. J'ai jamais fait d'insomnie par la suite. Tu sais, je me réveille pas 40 000 fois durant la nuit. Si je me réveille une fois durant la nuit, je me rendors tout de suite après. Fait que ça, thank God, parce que le sommeil est vraiment important. ensuite, mes tics, je vous dirais, tu sais, je me souviens pas exactement, mais dans ma tête, en secondaire 1, j'avais plus de tics. Fait que, tu sais, je sais pas si ça a duré 4, 5 et 6e année, mais secondaire 1, j'avais plus de tics, c'était toute partie. Le pourquoi du comment, sérieux, I don't know, j'ai vu juste cette psychologue-là, peut-être pendant une année, jamais rien fait d'autre, j'étais pas médicamentée non plus, ok, juste pour vous mettre en contexte. Puis mes tics de cou et de poids, ben, non, toutes mes tics, je pense. Toutes mes tics sont revenues en secondaire 5, sauf que mon cou c'était moins intense, c'était plus un... Je tournais plus au complet ma tête, c'était juste vers la gauche que je craquais mon cou, puis ça craquait même pas à chaque fois, là. C'était juste un mouvement involontaire que je faisais. En secondaire 5, mes tics sont revenus, puis je pense, c'est justement parce que j'en avais trop sur mon assiette, je me mettais trop de pression. J'étais présidente de mon école secondaire, j'étais présidente de plein de comités, puis tu sais, on était vraiment, vraiment une grosse école au secondaire, avec plein de monde, c'était pas une petite école de village, c'était vraiment une grosse école de sportifs et de musiciens. Puis... J'étais impliquée dans plein de choses. Je travaillais au Subway peut-être 25 heures semaine, qui était quand même gros au secondaire. Je pense que, ouais, je coachais au mini-volleyball. J'étais en sport-études volleyball. Fait que, comme, bon, c'est ça. Ma tête était occupée par mille et une choses, puis c'est là que mes tics sont revenus. Puis, c'est sûr que c'était parce que j'étais trop anxieuse. Tu sais, je veux dire, ça parle un corps, puis ça me disait de slow down, mais tu sais, dans ce temps-là, je connaissais pas ça, écouter son corps. Donc, je continuais quand même. Puis, j'ai revu une psychologue pour ça. Ensuite, je suis allée étudier à Ottawa au collégial. J'ai revu une psychologue. Puis, à chaque fois, c'est ça qui est fucké. À chaque fois, dans mon conscient, je ne me considérais pas comme une personne anxieuse. Pour vrai, tout allait bien. Tu sais, à part là, l'année de secondaire, c'était full rushant. Mais après ça, tout allait bien. J'aimais ma vie. J'aimais ce que je faisais. C'est juste que le tic était encore là. C'est comme si je ressentais plus l'anxiété. J'avais un mode de vie plus équilibré, mais le tic était resté. Puis sachez, ça, je suis 100% certaine de ma stats que je vais vous dire, mais c'est 1% des adultes qui ont des tics. 1%! C'est vraiment pas beaucoup, et j'en fais partie. Je vais pas dire malheureusement parce que je commence à l'accepter, puis ça, on va en parler, mais c'est ça. Fait que j'avais vraiment beaucoup de tics encore, rendu au collégial, j'ai vu des psychologues, puis tu sais, plusieurs me parlaient de la méditation, puis j'essayais pas, tu sais, la respiration, je le faisais pas, fait que en vrai, j'écoutais pas vraiment les conseils, qui est un peu contradictoire, parce que je voulais vraiment enlever mes tics, parce que moi, je me voyais comme la fille de communication, qui va faire des conférences plus tard sur un stage, puis là, je me disais, est-ce que les gens vont juste checker mon tic, puis pas m'écouter? parce que c'est visible. Tu sais, versus, il y en a qui font de l'anxiété à l'intérieur d'eux, ça paraît zéro qu'ils sont anxieux ou stressés. Le stress, c'est différent. Mais il y en a qui ça paraît pas, mais quelqu'un qui arrête pas de bouger son cou, tu sais qu'il se passe de quoi à l'intérieur d'elle, on s'entend? Puis, finalement, à ce jour-là, je vais dire, parce que depuis, il y a eu le collège, l'université, là, je travaille depuis 3 ans dans ma business, blablabla. Aujourd'hui même, j'ai encore mon tic de cou, j'ai plus mes tics de poignet, j'ai plus mon tic de nez, mais il y a un autre tic qui s'est ajouté, peut-être ça fait 3-4 ans, je craque mes pouces. Je sais pas si vous avez entendu, je craque mes 2 pouces en même temps, mes pouces sont rendus tellement faibles, ok? Des fois, j'essaie de craquer puis ça fait mal parce que ça veut pas craquer. Fait que j'ai mes tics de pouces, mon tic de cou, que vraiment, là, faudrait que je vous le montre à un moment donné. Je pense peut-être faire un reel à propos de ça, mais je craque vers la gauche, ce qui fait que maintenant, ma tête n'est plus droite. Quand je regarde une personne dans les yeux que ma tête est censée être droite, eh bien, ma tête est rendue un petit peu croche. Puis ma grosse crainte, c'est qu'éventuellement, elle soit fucking croche. J'ai vu des chiro aussi pour ça, j'ai vu des experts en posture, puis il y a des petits trucs que je fais, mais tu sais, c'est vraiment le tic que je dois arrêter si on veut. Mais comme je vous dis, c'est tellement inconscient, je peux le faire 100 fois dans une journée sans m'en rendre compte. Des fois, je me rends compte que je fais le tic, des fois, je m'en rends pas compte. Des fois, c'est Lee qui me dit, hey, ça fait vraiment une couple de fois que tu fais ton tic, ou hey, tu fais gros ton tic à soir, je m'en rendais zéro compte. Puis, c'est sûr que je me suis posé plein de questions de pourquoi je le fais, quand je le fais, combien de fois je le fais, blablabla. Ce que je me suis rendu compte en résumé mes tics, j'ai fait surtout quand je suis fatiguée le soir. C'est sûr que j'ai fait plus le soir que quand je me lève le matin. Ensuite, dès que je prends de l'alcool, genre une gorgée d'alcool, le tic est 100% activé. Fait que quand je bois, c'est sûr que je fais vraiment plus mon tic. Même chose pour les boissons énergisantes. Le café, ça va, j'ai pas remarqué, mais les boissons énergisantes aussi. Puis, je le fais énormément en voiture, ça on va en parler, mais quand je suis en voiture, je fais vraiment, vraiment gros mon tic. Puis, ouais, je dirais c'est ça. En voiture, c'est que je suis seule en voiture avec quelqu'un, que je m'en vais quelque part à l'épicerie ou que je m'en vais rencontrer une nouvelle personne, je le fais autant. Fait que quand je suis fatiguée, quand je prends, on va dire, des stimulants, puis quand je suis en voiture, c'est vraiment les pires fois que je fais mon tic. Puis quand j'enregistre des épisodes de podcast, je le fais pas beaucoup. Quand je fais des lives, je le fais, mais pas tant que ça. C'est vraiment pire autrefois. Puis ce qui est super spécial aussi avec mes tics, c'est que les gens ne s'en rendent pas compte tant et aussi longtemps que je ne leur dis pas. Puis je pense que c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps d'en parler sur les médias sociaux, parce que là, à partir d'aujourd'hui, vous allez remarquer quand je fais mes tics. Mais ça me dérange pas, ça me rend différente, tout simplement. Il y a du positif à ça. Ça me fait travailler sur moi, puis ça me fait aussi lâcher prise de qu'est-ce que les autres disent de moi, comment les autres me perçoivent, etc. Mais auparavant, ça me faisait vraiment chier. J'étais enragée envers la vie parce que j'avais des tics, j'étais genre, oh my god, le monde m'a tellement me jugé, blablabla. Mais c'est ça, les gens s'en rendent vraiment pas compte. Puis quand je leur dis, même des amis, là, des fois, ça, je sais pas, ça peut faire un an que je vois full une personne, puis j'ai dit, puis elle est comme, ah, j'avais pas remarqué. Puis là, à partir de ce jour-là, ils le remarquent. Mais ça change rien, tu sais. Jamais personne me dit, wow, pauvre toi. Tu sais, les gens sont comme, c'est cute, ça te donne un charme, ça fait partie de toi. Tu sais, je me fais vraiment souvent dire ça, ça fait un charme. Ça te fait un charme. Ok, je vais le prendre. Donc, où je vais en venir avec ça, c'est que aujourd'hui, où est rendue mon anxiété? C'est différent, je vous dirais, qu'avant la pandémie. Avant la pandémie, j'étais moins sérieuse dans mon développement personnel. C'est vraiment pendant la pandémie que j'ai pris le temps de comme apprendre plus à me connaître, développer ma spiritualité, etc., comme vous savez. C'est aussi, by the way, c'est important que je le mentionne parce que je vais être full authentique avec vous. Mais durant la pandémie, j'ai accepté de me médicamenter. Donc, j'ai pris un antidépresseur qui s'appelle Zoloft. Pendant peut-être 9 mois à 1 an, je dirais. Puis, sérieusement, je le prends plus à ce jour. Ça m'a tellement mindfuck prendre ça. Tellement. Je sais, là. Puis, j'ai rien contre les antidépresseurs. Il y en a que ça l'aide vraiment, ça change une vie, puis blablabla. Ilalalala. Moi, pas du tout. Tu sais, je sais pas si vous avez écouté tous mes autres épisodes de podcast, mais je parle souvent que l'année 2022, pour moi, c'était quand même difficile. Mon énergie était pas tant là. J'étais brûlée de mon année 2021. Les 6 premiers mois de 2022, j'ai tout refait mes offres dans ma business, j'étais juste vraiment scrap. Puis on était en confinement, je pouvais pas aller au gym, j'étais pas vaccinée, je pouvais comme quasiment rien faire. J'habitais avec Loïc, mais une chance là, en fait, honnêtement là, mais tu sais, on faisait vraiment rien là. C'est là que j'ai arrêté de bouger. Mon lifestyle d'habitude, si on veut, a changé. Puis c'est là en même temps que j'ai commencé à prendre mon médicament. C'est ça que je mentionne pas dans habituellement parce que ça vient pas nécessairement sur le sujet, mais une grosse raison de pourquoi 2022, j'étais pas tant là sur la planète Terre, je pense que c'est vraiment à cause de cet antidépresseur-là. Pour de vrai, la gang, j'étais devenue tellement zombie, là. Zéro énergie. Zéro énergie. Je dormais des 14 heures comme une adolescente. Je pouvais avoir dormi 10 heures, je me réveillais scrap ben raide. Des fois, je me sentais hangover, j'avais rien bu la veille. Je faisais des siestes, genre de 2-3 heures. C'est rendu là, on appelle même plus ça des siestes. J'avais plus la joie de vivre d'habituellement. Je voulais voir personne. Ça m'a tellement renfermée sur moi-même. Je pense que je buvais plus d'alcool que d'habitude, mais tu sais, c'était pas problématique, mais j'étais vraiment, vraiment pas là. Puis c'est un symptôme vraiment normal de cet antidépresseur-là. Je connais pas super bien les autres, mais c'est que ça rend le monde fatigué. Puis ça rend les gens plus addictifs à l'alcool. Il y en a qui, tu sais, c'est tough, là. Puis moi, je le prenais vraiment juste pour mon tic. J'étais comme, tu sais, j'allais bien dans ma tête, mais mon tic, je voulais régler ce problème-là, entre guillemets. Puis c'est exactement le 13 juin 2022. Fait que, ouais, c'est vraiment comme 6 premiers mois de 2022 que je l'ai pris. Mais le 13, ben pas que je l'ai pris, mais que je filais moyen. Le 13 juin 2022, c'est là que j'ai arrêté de prendre mon antidépresseur par moi-même. Là, je n'ai même pas parlé à ma médecin. Parce que j'ai découvert des groupes Facebook qui parlaient de Zoloft, puis j'étais comme « Oh my God! » Puis je sais qu'on doit pas tout croire sur les internets, mais si vous aviez lu le nombre de témoignages de gens qui ont pris Zoloft, puis qui se trouvaient zombies à toujours dormir, à perdre leur joie de vivre, à perdre leur ambition d'envie, à se retrouver toute seule avec eux-mêmes tout le temps, à pas vouloir voir personne, j'étais comme « Non, I don't want that kind of life. Je vais reprendre sur moi, accepter mon tic, m'envoyer de l'amour, travailler sur mon mindset de juste accepter le tic qui est là, puis éventuellement, tu sais, c'est peut-être tellement que je focus sur mon tic qui reste, mais le jour que je vais vraiment lâcher prise, il va peut-être partir, là. Fait que j'ai comme, du jour au lendemain, j'ai arrêté ça, puis j'ai pas eu de, comment dire ça, tu sais, de sevrage ou de craving, tu sais, j'étais super correcte après, puis ça a pris peut-être 4 mois, je vous dirais, fait que juin, juillet, août, septembre, octobre, bon, ouais. L'automne 2022, c'est là que je me suis retrouvée, là, que j'ai retrouvé plus l'ILO d'avant, puis plus qu'on avançait, plus c'était mieux, plus je voulais revoir des gens, l'énergie était revenue. Puis c'est sûr qu'il y a plein d'autres choses autour, qu'il n'y avait plus de confinement, genre commençait à bouger, tu sais, tout ça, c'est une roue, si on veut. Mais non, plus jamais je prends celui-là, en tout cas pour cette situation-là. On connaît pas le futur, of course. Mais The Love m'a vraiment là, rendu down. Puis c'est vrai aussi, c'est non conseillé de prendre ça sur l'alcool, mais ça me donne envie de boire de l'alcool. Mais quand on prend un verre d'alcool, c'est comme si on avait genre bu 4. Fait que tu sais, ça aussi, ça me donnait complètement. Bref. Donc, ce que j'ai découvert, je vais vous en parler aujourd'hui, je suis full open, puis ça aussi, j'étais comme, je peux pas en parler, parce que c'est comme, on sait pas trop si c'est légal au Canada. Mais, ben, en fait, c'est... Non, je pense que c'est pas encore légal, si on veut vraiment sortir du gouvernement. Mais bon, appelez pas la police. j'ai remplacé, si on veut, au même moment que j'ai arrêté de prendre ma médication pour mon tic, j'ai découvert le micro-dosing de Mushroom. C'est vraiment style médicament, là, c'est comme des petites pilules qu'on va dire. Ça goûte à rien, t'hallucines rien, t'as pas de symptômes, t'es pas sur un high, c'est ça que je veux dire. Là, ça, on dirait vraiment pas que tu viennes de prendre de la drogue. Puis microdose, il y a comme 100 mg, 200 mg, puis plus tu montes, plus ça se peut que t'ailles des effets. Moi, je prends 100 mg, puis des fois 200 mg les journées que je me sens plus comme excitée, anxieuse, là, on va dire à l'intérieur de moi, puis ça bouge plus. Puis, c'est 100% naturel, c'est ça qui est beau, c'est ça, c'est naturel, il n'y a pas mille et un ingrédients là-dedans. C'est même moins dispendieux que la plupart des antidépresseurs médicaments. Puis aujourd'hui, je suis zéro experte en santé, je vous conseille pas de prendre, prenez pas une décision à cause de ce podcast-là. Mais ça m'a vraiment aidé parce que ça l'aide l'énergie, l'anxiété et l'humeur. Il y a plein de gens dépressifs qui sont sortis des dépressions à cause de ça, plein de gens anxieux. Ils sont devenus des personnes quasiment plus anxieuses grâce à ça. Puis pour vrai, j'ai vu les effets dès le début. La première journée, j'ai pris ça. J'ai dit à mon chum, voyons, on dirait que j'ai pris un pre-workout. Je suis dormais excitée aujourd'hui. Puis j'avais pas pris de pre-workout. Puis je me suis dit, c'est quoi, j'ai pris de différent. Et c'était ça. C'est vraiment nice. Là. Ça donne pas un boost de 30 minutes. Là. Toute la journée, t'as plus d'énergie, t'es plus là, t'es plus focus, les pieds sur terre, t'as moins d'anxiété. Wow. Puis si on prend ça par cycle, le cycle que tu veux, tu peux en prendre 4 jours de suite, t'arrêtes 4 jours. T'en prends 4 jours de suite, t'arrêtes 4 jours. Ça peut être 2-2-2, ça peut être 3-3, c'est comme tu le souhaites. Vraiment, vraiment nice pour ça. Puis, il y a eu une période cet hiver que j'en avais plus. Puis ça paraît, là, mes tics sont revenus fois 1000 cet hiver. Donc, juste pour vous dire, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Puis, une autre chose que je veux partager avec mon anxiété de... depuis la pandémie, je vous dirais qu'il est quand même vraiment négatif. Puis que ça, la microdose m'aide pas pour ça. J'ai pas trouvé encore d'autres solutions. Au fond de moi, je sais que ça, plus que je médite, plus ça m'aiderait, mais je prends pas le temps actuellement de plus méditer. C'est vraiment mon anxiété en voiture. C'est tellement plate, tellement fâchant à l'intérieur de moi. Mais je fais full anxiété maintenant quand je conduis avec une personne, genre, sauf mon chum. Mon chum, pas en tout. Ma mère, un peu, mais tu sais, c'est avec les deux personnes que j'en fais vraiment un peu. Mais mon chum, c'est vraiment lui que jamais je vais penser, oh my god, faudra que je conduise tantôt. Ou, pendant que je conduis, c'est comme s'il était pas là dans ma tête. On parle, mais vous comprenez? Mais ouais, j'ai vraiment la misère maintenant à lifter des amis, à amener du monde, à aller chercher mes parents, à aller n'importe où, là. Comme ça me stresse full. Mettons que je vais avoir une amie à Montréal, ben là, je vais full stresser qu'elle me dise, on prend toute ta voiture. Puis je sais pas pourquoi. Je sais même pas, c'est pas que j'ai peur de faire un accident, c'est pas que j'ai peur, je sais juste pas c'est quoi que j'ai peur, puis pourquoi c'est arrivé et apparu à 25 ans, ici et maintenant, aucune idée, mais cet hiver, c'était vraiment la pire hiver pour conduire, là. Honnêtement, j'allais juste au gym puis à l'épicerie, parce que j'avais peur, j'avais de l'anxiété, puis je me fais pas de scénario, le point de l'anxiété, c'est de faire des scénarios, mais je fige, tout simplement. Puis, c'est vraiment plate parce qu'éventuellement, moi, je veux des enfants. Puis, je suis comme, my God, une mère, ça livre ses enfants. Puis, tu sais, ça a besoin d'aller au game de soccer. Puis, tout ça. Donc, je veux vraiment régler ça, me donner plus d'amour pour cette situation-là avant d'avoir des enfants. Puis, sachez que je suis une personne qui n'a jamais voulu conduire avant d'être en secondaire 5. Je voulais vraiment pas conduire. Fait que, tu sais, je suis vraiment née avec un trauma d'une autre life. Certainement que je suis certaine d'avoir fait des accidents dans d'autres vies. Puis, j'ai déjà travaillé avec ça dans le mastermind à Alexa. À Alexa, my god, j'ai dit Alexa, c'est mon autre amie. Puis, on pense que j'aurais fait un accident, puis que j'étais pognée toute seule dans l'accident, j'étais pas capable de sortir. Puis c'est peut-être de là aussi que mon tic provient. C'est soit à cause de l'année de mes 7 ans dans cette vie-ci, ou auparavant, peut-être que j'aurais craqué mon cou mal, puis là, le tic est apparu. Ou j'avais déjà travaillé, c'est vrai, avec une personne qui voit les vies antérieures, puis elle m'avait dit que je m'avais fait étrangler le cou. Devant mon enfant, puis là que mon tic serait venu de là, la personne m'aurait comme scrappé le cou puis la colonne, puis c'est pour ça que je serais autant maternelle puis que je suis autant protectrice envers les enfants. Bref, tu sais, je suis neutre là-dedans, mais c'est quand même intéressant. Puis où en venir avec ça, mais c'est ça ma peur pour les voitures, conduire, je suis certaine que ça vient d'une autre vie. Jamais eu d'accident dans cette vie-ci, jamais, mes parents ont pas peur de conduire, mes parents conduisent chaque jour, toujours, je suis vraiment la seule dans ma famille que c'est ça. Puis finalement, en secondaire 5, je suis allée faire mon cours de conduite parce que tout le monde y allait, puis j'avais une confiance dans ce temps-là pour ça. Tant mieux. Je suis très contente d'avoir mon permis aujourd'hui, mais j'aime pas conduire. J'aime ça me faire conduire, puis c'est pas une affaire de lâcheté, on va dire. C'est vraiment, ça me stresse conduire, le shake, puis des fois j'ai les deux mains sur le volant, traverser un pont, je deviens en sueur. C'est vraiment pas nice. Ce qui me calme, par contre, c'est mettre de la musique puis chanter. Quand je mets de la musique, puis je chante ou je fredonne, ça me relaxe, ça me fait complètement oublier que je suis en train de conduire. C'est le truc que je me suis trouvé, en fait. Puis, c'est ça. Donc, je fais de l'anxiété quand je suis avec quelqu'un en voiture, quand moi, je conduis, là. Quand l'autre conduit, j'ai zéro stress. Pour ça, je vous dis, j'ai pas peur de faire un accident en voiture, quoi que ce soit. C'est vraiment quand moi, je conduis. Puis, seule aussi, je fais de l'anxiété, mais plus l'hiver. Tu sais, l'été, je suis chill, mais l'hiver, me rendre du point A au point B, je suis stressée. L'hiver, je vais jamais voir mes amis dans les autres villes. Tu sais, c'est pas moi qui ferais l'Ouest canadien en auto, mettons. Vraiment pas. Puis, c'est ça, l'hiver, je fais vraiment le minimum. Puis, je demande vraiment souvent à l'aide qui conduise quand il peut. Donc, ouais, c'est lourd, ça. C'est vraiment plate. Puis, c'est drôle parce que j'ai reçu quelqu'un sur mon podcast, je pense qu'il y a 3 semaines, Chantal. Puis, elle a comme lâché dans l'épisode Ah, ben, tu sais, conduire, ça fait tellement pas peur. Puis, j'étais comme Oh my god, si tu savais comment. Je déteste conduire. C'est même rendu que des fois, je me fais le scénario dans ma tête du chemin que je dois prendre avant de me rendre. Puis quand il y a des sorties que je sais qu'il y a plein d'autos, ça me stresse. C'est lourd, hein? Le trafic de Montréal, oubliez ça. Je shake aussi. L'autre fois, j'étais sur le pont, puis là, il ressentait vraiment mon anxiété de « Voyons, est-ce que t'es donc bien peur, live? » J'étais comme « Ouais, ça file pas, là. » Tu sais, sur le pont, une personne à côté de moi, une auto à côté de moi, ça me stresse. Bref, je pourrais vous en parler pendant longtemps, c'est des trucs let me know, mais tu sais, je sais que c'est des trucs que, vraiment méditation, pleine conscience, journaling, aller trouver la source de où ça vient, blablabla, mais En tout cas, envoyez-moi de l'amour. J'espère vraiment que je serai pas anxieuse toute ma vie là, à prendre ma voiture, puis que je vais comme trouver l'élément déclencheur, si on veut, de ça. Donc, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous partager par rapport à mon anxiété. Sûrement que vous apprenez plein de choses. Je sais pas si tout le monde fait de l'anxiété, hein. Je me suis posé la question tantôt, j'ai pas fait mes recherches sur ça, mais je pense que tout le monde en fait un petit peu ici et là. On se fait des scénarios selon une situation. Tu sais, peut-être que vous faites plus d'anxiété à votre job, dans votre business, peut-être dans votre couple, peut-être avec vos enfants. Tu sais, ma mère m'a confié qu'elle, dès qu'elle a eu des enfants, c'est là qu'elle a commencé à être un peu plus anxieuse, puis avant, elle était zéro. Tu sais, ça dépend d'une personne à l'autre. Moi, je vous dirais que c'est vraiment gros en voiture, que je me fais des scénarios, que je suis stressée. Ouais, pas mal juste ça, je vous dirais. Puis, c'est mon tic, l'anxiété vraiment plus là le soir quand je suis fatiguée, quand je bois de l'alcool et tout. Puis, ouais, c'est ça. Donc, merci tout le monde de m'avoir écouté. Je vous envoie plein d'amour. Merci de me faire confiance. Merci de prendre le temps d'écouter mon épisode. C'est tellement, tellement apprécié. Mon podcast est vraiment là pour durer. J'ai une grande vision pour mon podcast, éventuellement avoir mon propre studio dans ma maison. Ça va être une porte sur le côté, que les gens vont pouvoir venir, champagne, chocolat, vous servir, vous accueillir, vous donner un câlin en personne, puis vous recevoir sur mon podcast. Bref, c'est vraiment, vraiment mon intention, ma vision pour le futur. Donc, merci encore. N'oubliez pas de partager l'épisode en stories et on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye tout le monde!